Je suis très heureux de vous voir. Et si je vous vois, c'est que vous êtes toujours vivant. Est-ce que ça vous est arrivé un jour de vous réveiller le matin et de dire « Merci Seigneur parce que je suis vivant. Je vis encore. » Ou alors vous dites « De toute façon, c'est automatique. » Le soir, le matin. Mais c'est pas toujours tout à fait comme ça, hein. Le 16 mars 2016, j'allais avec une école. Le matin, ils avaient visité mon musée sur le pain. Et l'après-midi, on allait visiter le moulin Moulbet. La visite était terminée. Les enfants descendaient. L'institutrice suivait. Et le meunier m'appelle en me disant « Paul, laisse la porte ouverte, il y a quelqu'un qui doit venir. » Et puis personne ne sait ce qui s'est passé. Je suis passé au-dessus de la rampe et je suis tombé 3 mètres plus bas, sur le dos, là où il y avait du gazon. Sur le dos, hein, pas sur le cou, ni comme ça, sur le dos. Le résultat, c'est que j'avais mon bassin cassé à 2 endroits, des côtes cassées devant, des côtes cassées derrière. J'ai passé un bon moment à l'hôpital où on s'est bien occupé de moi. On m'a donné du Valium. Mais alors, c'est incroyable ce que ça a produit sur moi. Encore récemment, Dorca me demande, tu te souviens que ton frère Jacques est venu te voir? Non. Tu te souviens que le pasteur Intel est venu te voir? Non. Je ne me souvenais de rien. Et encore aujourd'hui, je ne me souviens de rien. Et quelqu'un a dit, tu sais, Paul-Antoine, si tu es encore vivant, ce qui est un véritable miracle, hein, parce que de la hauteur où je suis tombé, parce que tout autour du moulin, c'est des gros graviers comme ça, vous savez, des gros graviers comme ça. Et il y a juste un emplacement où il y a du gazon. Tu sais, Paul-Antoine, si tu es encore vivant, c'est que le Seigneur avait encore besoin de toi. Si tu es encore vivant, c'est que le Seigneur avait encore besoin de toi. Alors pendant des mois, je suis resté à la maison, couché. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, un spitant comme moi, ne plus savoir comment à peu près il s'appelait, ne plus se souvenir de rien, etc. Je me suis tapé un burn-out pendant un bon moment, hein. Tout ça pour ajouter à tout ce qui s'est passé avant. Et je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Alors, je voudrais lire pour commencer dans le psaume 138. Psaume 138. Et au verset 14, psaume 138, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Vous me direz, mais écoute, Paul Antoine, arrête un petit peu de parler de la mort, etc., etc. Nous, ça ne nous intéresse pas tellement, ce genre de truc. Mais quand vous voyez encore ce qui s'est passé la semaine passée, hein, on se promène joyeusement sur le boulevard, et tout d'un coup, plouc, on passe de la mort, de la vie à la mort. On passe de la vie à la mort. Ça veut dire que nous devons toujours être prêts. Il y a dans le psaume 90 et au verset 12, il est dit, attendez, je vais le lire parce que, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors pendant tous ces mois que j'ai passé chez moi à la maison, il faut dire que depuis le 16 mars 2015, hein, c'est la troisième fois que je prêche depuis lors. C'est vous dire que j'ai été vraiment marqué par cet accident et je loue encore le Seigneur d'être vivant. Alors pendant tout ce temps, j'ai dans ma lecture de tous les jours, dans ce qu'on appelle sa parole pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, sa parole pour aujourd'hui, j'ai relevé 7 messages, si vous voulez, que je veux vous lire ce matin. 1 pour chaque jour, 7. Et au bout du 4e, on va faire une petite pause et je vous demanderai de choisir une strophe de chantique qu'on pourra chanter. Et puis, je terminerai avec les 3 autres. Toute expérience vaut son pesant d'or. Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Dieu ne gaspille jamais rien. Il se sert de chacune des expériences que nous vivons, les bonnes autant que les mauvaises, afin de nous préparer à accomplir ce qu'il attend de nous. Moïse passa son enfance dans un foyer d'accueil. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il vécut à la cour de Pharaon, apprenant la langue et les coutumes des Égyptiens. Tout cela parce que Dieu avait prévu de se servir de lui afin de conduire son peuple hors d'Égypte. Pouvez-vous imaginer un meilleur moyen de comprendre la stratégie de nos ennemis que d'être éduqué parmi eux? Moïse avait besoin également d'apprendre quelque chose, une leçon plus personnelle. Aussi Dieu l'envoyait-il passer 40 ans dans un désert en compagnie de ses seuls moutons. Le petit-fils de Pharaon devint donc un simple berger. Rien n'est plus humiliant que d'être forcé d'accepter un emploi subalterne lorsque vous êtes bardé de diplômes, surtout si vous devez le faire à la suite d'une grosse bêtise que vous êtes seul coupable, responsable. Ces longues années de privation apprirent à Moïse à comprendre les souffrances des humbles. Parvenu à l'âge de 80 ans, il est enfin prêt à remplir le rôle auquel Dieu l'a destiné. Dieu vient s'adresser à lui en personne au travers du buisson ardent. Moïse, Moïse ! À cet endroit singulier, Dieu lui révèle que son destin est de délivrer et de guider le peuple d'Israël. Même s'il regimba, s'inventa des excuses et connut la peur, il finit par accomplir sa tâche correctement. Ce dont il faut se souvenir, c'est que toutes les expériences vécues au cours de ces 80 années lui furent utiles. D'avoir passé 40 ans dans l'entourage de Pharaon lui permit de savoir comment s'y prendre avec le vieux souverain, et d'avoir travaillé 40 autres années comme berger lui permit de s'occuper du peuple de Dieu et de le conduire à travers le désert qu'il devait traverser en route vers son destin. N'oubliez pas que même si vous traversez des moments difficiles, votre rôle est de toujours vous réjouir, car en compagnie de Dieu, toute expérience vaut son pesant d'or. Il se servira de chacune d'entre elles pour votre bien et pour sa plus grande gloire. C'est pas sur le moment qu'on accepte ça, hein. C'est avec le temps. On se dit, mais pourquoi Dieu m'a fait passer par là? Pourquoi il a voulu cela? Même certains ont pu témoigner quand ils étaient à l'hôpital ou quoi. Moi, j'ai même pas eu cette occasion puisque je savais même pas où j'étais. Je savais pas où j'étais. Je savais pas qui venait me voir. Je ne savais plus rien. Donc, c'est pas là que j'ai pu témoigner. Mais enfin, semez-vous des graines. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, puis j'y recueillerai tout mon blé et mes autres biens. Luc 12, 18. Dans la parabole du riche insensé, Jésus nous avertit des dangers inhérents à l'accumulation de biens matériels, et nous montre combien est futile ce genre d'attitude qui consiste à garder pour soi des stocks toujours plus élevés de biens, de produits ou denrées en tout genre, ou à accumuler des réserves bancaires exagérées. Le problème aux yeux de Dieu, c'est que ces réserves ne servent à rien et ne profite à personne. Elle demeure souvent ignorée et secrète. Nous sommes tous capables d'agir ainsi. Écoutez bien maintenant, mesdames. Passez en revue les vêtements ou les souliers qui sont entassés dans vos placards et que vous n'avez pas portés depuis longtemps. Ou songez à toutes les casseroles entassées au fond de vos meubles de cuisine et qui n'ont pas vu le jour, la lumière du jour, depuis des lustres. N'est-ce pas une forme d'accumulation de biens? Inutile. Non seulement nous sommes capables d'accumuler sans raison des biens matériels, mais nous pouvons également garder pour nous-mêmes les talents que Dieu nous a donnés. Matthieu 25 et 26. Il est clair que Dieu déteste ce genre d'attitude. C'est exactement le contraire de l'action de semer des graines. Les graines, c'est la parole de Dieu. Quelle folie que de vouloir engendrer toutes ces graines sans accepter d'en semer la moindre quantité dans les champs. À l'évidence, ce fermier insensé ne récoltera rien l'année prochaine. Avez-vous réfléchi à la possibilité que nous risquons nous aussi d'engranger nos graines, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui peut apporter la vie à ceux qui la découvrent? Plusieurs raisons expliquent notre réticence à semer nos graines, mais la peur est la plus importante. Nous craignons les moqueries des autres, les critiques. Nous avons peur de paraître ridicules, d'être rejetés. Enfants de Dieu, si nous ne surmontons pas nos craintes, notre vie risque d'apparaître aux yeux de notre Seigneur comme un vaste champ inutile et sans récolte, car nous avons évité de semer les graines qu'il nous avait confiées. Être chrétien 24 heures sur 24. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Josué 1:8. Être chrétien 24 heures sur 24, cela veut dire quoi? Ce poème vous le dira. Surtout, pas prier seulement quand on a besoin ou envie. Cela veut dire l'écouter chaque heure de chaque jour, pas seulement quand on le souhaite. Cela veut dire prier et lui faire confiance toute la semaine, pas seulement quand on a du temps libre ou quand cela nous arrange. Cela veut dire ouvrir la Bible et s'en nourrir autant que du pain que nous mangeons chaque jour à chaque repas. La Bible n'est pas un gâteau que l'on savoure aux grandes occasions. Dieu est là 24 heures sur 24. Il comprend notre vie et notre agenda. N'avons-nous pas assez de temps libre à lui donner, lui qui aime chacun d'entre nous? N'avons-nous qu'un peu de temps pour lui le dimanche? Si nous lui accordons juste les 52 dimanches de l'année, nous l'expulsons des 313 jours restants. Être chrétien 24 heures sur 24 veut dire lui donner du temps tous les 365 jours de l'année. Si nous le louons seulement une heure et demie chaque dimanche, cela ne suffit pas. Vous plaisantez, j'espère. Si c'est le seul temps que nous lui accordons, cela représente 68 heures en sa présence chaque année, ou encore l'équivalent de 3 jours complets de louanges par an. Il y a exactement 8765,81 heures par an. Au cours de combien de ces heures vous approchez-vous de lui? À moins que Dieu n'occupe que la deuxième place dans votre vie, peut-être votre carrière ou vos loisirs sont-ils en première place? Mais Dieu ne vous a pas placé en seconde place, même avant votre naissance. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de courber la tête, de lui demander pardon de l'avoir négligé, de ne pas lui avoir accordé la première place dans votre cœur? Merci Seigneur de nous aimer autant, chaque seconde de chaque jour, de chaque heure, de chaque jour. Merci d'écouter chacune de nos prières silencieuses quand nous ne trouvons pas les mots justes. Nous te demandons pardon. Aide-nous à nous souvenir de toi chaque jour, car nous souhaitons devenir des chrétiens 24 heures sur 24. Amen. Imitez les premiers chrétiens. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement. Jésus n'a formé qu'une poignée de disciples. Après sa résurrection, le petit groupe comptait à peine plus d'une centaine de personnes. Mais leur nombre augmenta rapidement. Ils ne disposaient d'aucune organisation stricte, aucun programme d'évangélisation. Leurs ressources étaient minces, leur technologie inexistante. Mais leur force était ailleurs. Si nous voulons que nos églises connaissent un accroissement identique, peut-être devrions-nous étudier leurs secrets? Luc nous révèle le premier. Ils étaient unis les uns aux autres. Avant d'aller porter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, ils devaient se sentir soudés par des liens indestructibles. Séparés, ils auraient été vulnérables aux attaques de l'ennemi qui, tel un lion rugissant, cherche quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5,8. Ils étaient prêts à tout mettre en commun. Acte 2, 44. Leur amour les uns pour les autres ne se limitait pas à leur temps de prière ou de lecture de la parole, mais s'étendait à tous les aspects de leur vie quotidienne. Agissons-nous de même quand il s'agit de partager ce que nous avons avec nos frères dans le besoin? Si des membres de notre famille spirituelle, venus d'un pays plus pauvre que le nôtre, arrivent dans nos églises, comment les accueillons-nous? Les chrétiens des premiers jours n'hésitaient pas à mettre leurs biens en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Acte 2, 45. Leur joie était de se retrouver ensemble, pas seulement un jour par semaine, mais chaque jour, pas seulement au temple, mais dans leur propre maison. Ils appliquaient le commandement de Jésus, « Ayez de l'amour les uns pour les autres ». Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Jean 13,35. Le monde qui nous entoure remarque-t-il que nous nous comportons différemment, que nous aimons nous retrouver ensemble, que nous aimons partager entre nous les bénédictions que nous avons reçues? Sent-il l'amour que nous nous portons les uns pour les autres? Je vous propose de chanter une strophe de cantique. Qui est-ce qui propose quelque chose? Merci. Encore trois lectures. Veux-tu être guéri? Quand Jésus le vit étendu à terre, il lui demandit : Veux-tu être guéri? Cela faisait 33 ans que cet infirme attendait la guérison. De nombreux infirmes restaient couchés sur les marches de la piscine de Bethesda, espérant assister à l'apparition d'un ange venant parfois troubler la surface de l'eau. Le premier infirme à se plonger alors dans la piscine était guéri sur le champ. Bien entendu, les infirmes avaient besoin de l'aide d'amis ou de proches. Ce malheureux ne semblait pas être très chanceux, car personne ne s'offrait à l'aider. Non seulement il souffrait de son infirmité, mais aussi, semble-t-il, du manque de soutien réel. Pourquoi sa famille était-elle absente? N'avait-il aucun ami susceptible de l'épauler dans sa quête de guérison? Peut-être n'avait-il jamais pensé à entretenir de bonnes relations avec les autres? Ou se complaisait-il un peu trop dans son malheur? C'est alors que Jésus arrive et lui demande « Veux-tu être sauvé ?» Qu'auriez-vous répondu à sa place? Pourquoi ne s'est-il pas écrié « Mais oui, bien sûr !» au lieu de raconter ses déboires passés? N'agissons-nous pas parfois comme cet infirme? Si Jésus nous pose une question concernant notre avenir, avons-nous vraiment besoin de ressasser notre passé? Ne vaudrait-il pas mieux simplement accepter son soutien? Mais comment changer d'attitude? 1. En refusant de nous donner des excuses ou de nous complaire dans le rôle de victime. Voltaire a fait remarquer « Plus nous parlons de nos infortunes, plus elles risquent de nous causer de la souffrance. » En pardonnant à ceux qui nous ont peut-être offensés, le pardon n'est pas une émotion, mais une attitude suivie d'une décision. Troisièmement, en considérant sous un autre angle les choses qui nous font mal, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Quatrièmement, en acceptant la responsabilité de notre vie, Jésus dit à l'infirme, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jean 5, 8. C'est ce qu'il fit. Il y a quelque temps, notre ami Voltaire, que la plupart d'entre vous connaissent, est retourné en Bosnie avec une sœur qui a acheté deux maisons là-bas qui servent pour les missionnaires, pour les gens en visite, etc. Et elle est partie avec sa camionnette et avec une remorque. Et Voltaire lui a dit, mais tu sais, il faudrait pas prendre cette remorque avec toi. Elle a rempli sa remorque d'une foule de choses parce qu'elle avait un magasin de papier peint, etc., peinture, etc. Elle a rempli sa remorque, etc. Et bien, heureusement, c'est elle qui roulait en Allemagne. Et, vous savez, en Allemagne, on peut faire la vitesse qu'on veut. Hein. Donc, elle est occupée à rouler. Et Voltaire lui dit, mais écoute, un peu plus doucement. Ça. Et tout d'un coup, bang! Il y a un pneu de la remorque qui a pété. La remorque, elle est partie, elle est allée cogner l'arrière de la voiture, et puis un autre pneu qui a pété, elle est de nouveau partie dans le sang. À ce moment-là, notre ami Walter, il a crié au Seigneur, écoute Seigneur, envoie des anges pour nous protéger, parce qu'autrement, on va y rester. C'était sur l'autoroute en Allemagne, hein, vous voyez le coup, hein, vous voyez ça, hein? Tout s'est arrêté sur l'autoroute, dans un sens et dans l'autre. Et il a pu dire au Seigneur, « Seigneur, merci, parce que tu es toujours avec nous. » Il y a parfois des chrétiens qui ont des accidents, hein? Attention. Hein? C'est là, hein? Pause, il y a des chrétiens qui ont des accidents. Être chrétien, c'est pas une assurance tout risque. Hein? Assurance tout risque, c'est l'épisode à la télévision. Mais autrement, non, mais Alors, le matin de ce jour-là, j'ai été chez Aldi. Et chez Aldi, j'ai acheté un petit truc comme ça, plastifié, et il était marqué là-dessus en anglais, « Restez positif ». Le jour de l'accident de Walter, « Restez positif ». Alors, il y a des choses, voilà, mais on continue, il y a encore deux. Et s'il nous observe, puisque nous sommes enterrés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux 12, 1. Il y a eu Abraham, Joseph, Moïse, Samuel, Néhémie, ceux que nous appellerons aujourd'hui les monstres sacrés de l'histoire biblique. Mais il y a eu aussi des anonymes, tous ceux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 38. Voici une petite fille aux cheveux noirs d'ébène, arrachée à son peuple lors d'une razzia syrienne. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, est devenue l'esclave du fameux général Naaman. Son destin n'était pas brillant et peut-être se demandait-elle pourquoi Dieu avait permis une telle souffrance dans sa vie. Malgré tout, elle n'avait pas cessé de lui faire confiance. Que pourrait-elle nous dire pour nous encourager sur notre chemin ? J'avais pitié de mon maître. Il était toujours tellement triste, car il était lépreux. Sa richesse, sa puissance, sa célébrité ne le rendaient pas heureux. Moi, au contraire, j'avais compris que Dieu était avec moi et qu'il s'occuperait de moi. Il avait ses raisons pour m'avoir placé dans cette situation et j'étais heureux de le connaître. Alors, j'ai parlé à mon maître et je lui ai donné l'adresse du prophète Élisée. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour que mon maître découvre le seul vrai Dieu et qu'il soit guéri. Alors, ne négligez pas les petits détails. N'ayez jamais peur de témoigner de votre foi. Dieu seul sait l'impact de votre humble foi sur la destinée de ceux qui vous entourent. Voici un garçon naïf et gauche, un peu perdu dans la foule qui entoure Jésus. Il aimerait se rapprocher de lui et entendre ce qu'il raconte. Alors il se ferait un passage entre les amples burnous et parvient au premier rang. Jésus le remarque et sourit. Il a décidé de se servir de lui, ou plutôt de ses sandwichs, pour accomplir un autre de ces incroyables miracles. Des milliers de personnes vont être rassasiées avec le casse-croûte du garçon. Entre parenthèses, il y avait 5000 hommes, hein, plus les femmes et les enfants. Alors chez les Juifs, on n'a pas un gosse, hein, on en a... Bon. Que vous nous dirait-il ? Je n'avais rien d'important dans les mains. Mais quand Jésus m'a demandé de lui donner ce que j'avais, je n'ai pas hésité. Je n'ai jamais été plus heureux qu'à ce moment-là. J'ai vu de mes propres yeux la puissance divine à l'œuvre. Vous, non plus, n'hésitez pas s'il vous demande quelque chose. Cela en vaut la peine, croyez-moi. Vous ne serez plus jamais le même. Vous aurez rencontré Jésus face à face et son sourire vous aura illuminé pour toujours. Et j'ai mis comme titre « Je suis trop petit ». On n'est pas trop petit aux yeux de Dieu. Et je termine. Et s'il nous observait, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposé, Hébreux 12, 1. Comment pourrions-nous baisser les bras en les voyant tous occupés à nous crier leur encouragement et leurs conseils? Ils veulent que tout le ciel se réjouisse avec eux lorsque nous remportons une victoire sur nous-mêmes ou sur Satan. Allons-nous les décevoir? Courez avec persévérance l'épreuve qui vous a été proposée. Ne cessent-ils de nous dire? Eux ont achevé leur course. Eux ont gardé la foi. Ils attendent maintenant la couronne de justice qui leur est réservée. Mais ils ne sont pas égoïstes. Ils souhaitent que le plus grand nombre d'entre nous puissent obtenir la même couronne. Comment ont-ils réussi à garder la foi, demanderez-vous? La réponse est simple. Ils ont gardé les yeux fixés sur Jésus. Certains le voyaient à l'avance parce qu'ils étaient prophètes. D'autres l'ont vu en réalité. Mais tous attendaient l'accomplissement des prophètes de Dieu. Nous aussi pouvons garder les yeux fixés sur Jésus. Vous êtes des privilégiés, nous dirait-il peut-être. Vous avez toute une armée d'exemples à suivre. Tirez les leçons de nos vies. Évitez les erreurs que nous avons commises. Vous n'êtes pas seuls sur ce chemin. Des millions l'ont déjà emprunté et parcouru jusqu'au bout sans se perdre. John Maxwell a écrit que la course du chrétien n'était pas un marathon, car le marathon est une course bien définie dans le temps et la distance. La course du chrétien, elle se court sur une distance aléatoire et sa durée dépend de la volonté de Dieu. Lui seul sait quand nous franchirons la ligne d'arrivée. Pour certains d'entre nous, la distance est ultra courte. Le rebelle crucifié à côté de Jésus n'a pas parcouru une longue distance pour entrer dans le paradis avec Jésus. Pour d'autres, elle est beaucoup plus longue. Enoch marcha fidèlement avec Dieu pendant 365 ans avant d'être enlevé sans passer par la mort. Genèse 5, 24. Noé vécu 950 ans. Aux yeux de Dieu, la distance et la durée ont peu d'importance. Et la conclusion est la suivante, et c'est la mienne. Ce qui compte, c'est l'impact de notre témoignage et l'exemple que nous laissons derrière nous pour les générations suivantes. Sa parole pour vous aujourd'hui est « Courons avec persévérance l'épreuve qui vous est proposée ». Eh bien, que le Seigneur nous bénisse, et j'espère que ces quelques pensées nous aideront dans notre vie chrétienne. Pour l'instant, je n'ai pas la possibilité d'écrire beaucoup de messages comme je le faisais avant, pour la bonne raison que j'oublie beaucoup depuis mon accident. Alors, merci de prier pour Dorca et moi. Dorca a été opérée le 26 janvier, on lui a mis une prothèse à la jambe gauche et elle souffre toujours. Ça a bien été fait apparemment, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que ceux qui sont opérés de la même façon, 3-4 jours après, montent les escaliers, courent, etc. Mais le Seigneur sait toutes choses et nous lui faisons confiance. Que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Amen.